Alors, bonsoir à tout le monde. C'est le cours de sur le Nouveau Testament numéro 11, donc l'avant-dernier. On va prier pour ce cours et puis nous allons démarrer et tâcher de voir ce que nous avons prévu de voir. Enfin, ce que j'ai prévu de voir, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu, mais moi j'ai prévu des choses. Alors, Seigneur Jésus, on te remet cette soirée, on te prie pour cette heure de cours. Enfin, pas 7 heures, 7 heures. Et on te prie, Seigneur, pour qu'on reçoive des choses de toi, pour qu'on expérimente ta présence, pour que voilà, tu éclaires notre esprit et notre intelligence ce soir sur des choses, que tu nous donnes peut-être des réponses à des questions et que tu nous équipes pour vivre tout simplement demain, le quotidien. Cette vie, ce qui peut arriver, ce qui peut ne pas arriver aussi. Et voilà, Seigneur, on te remet ce cours ce soir. Amen. Donc ce soir, nous allons démarrer Hébreux, mais nous avons la prétention de faire Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, quand même. Hein. Pas non plus s'arrêter. Ce qui inclut quoi ? Ben évidemment que je vais faire... ce qui est bon, en même temps un peu logique, hein, des coupes sombres dans le texte. Donc évidemment, on peut pas tout voir, voilà. Donc évidemment, on fait des choix. Donc l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'on a à dire sur l'Épître aux Hébreux ? Première chose, bon, a priori, si ça s'appelle l'Épître aux Hébreux, c'est que ça s'adresse plutôt à des Hébreux, hein, on est d'accord, ou disons, soyons plus précis, à des croyants d'origine hébraïque, plutôt, parce qu'il s'adresse à des Hébreux. Non, pas exactement. Dans le canon des Écritures, ce livre, il y est inclus, reconnu comme tel, seulement à partir du 5e siècle. Alors on peut se dire, c'est tard, mais il y a une raison qui a dû faire tergiverser un peu les pères de l'Église. C'est que l'auteur est inconnu. Alors bon, je sais, il y en a qui vont dire c'est peut-être Paul, il y en a qui vont dire c'est un autre. Il y a des débats sans fin là-dessus, avec des arguments pour les uns, des arguments pour les autres, etc., etc. Mais moi je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. D'abord, je dirais que d'une certaine manière, j'en ai pas forcément les compétences. J'en ai pas forcément l'envie, et une fois que vous avez vu un peu les arguments des uns et des autres, vous êtes pas forcément extrêmement plus avancé. Il y a des arguments pour les uns, enfin voilà, ça peut se jouer. Donc souvent on a tendance à dire oui, mais c'est sûr, c'est l'apôtre Paul et tout. Il me semble juste qu'il y avait je suis en train d'essayer de le chercher tout en vous parlant, un verset qui pouvait pencher un peu plus pour l'apôtre Paul, mais si je ne l'ai pas surligné, forcément, je ne le retrouverai pas. C'est sûr. J'essaie quand même de voir vite fait. Je vois, mais ça ne fait... Non, en fait, le verset auquel je pensais, c'est Hébreux 13, 23. « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. » Donc on pourrait se dire, ben tiens, forcément, Timothée est un disciple de Paul, il a un lien, on va dire, ecclésial avec lui, on le voit dans notre lettre, etc. Et donc ça pourrait signifier ou tendre de manière plus prononcée à dire que ça serait du coup Paul qui serait l'auteur, mais en fait c'est pas forcément un argument massu, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que Paul qui devait connaître Timothée au 1er siècle. Donc voilà, ça peut tendre un peu, mais bon, après voilà, après il y a des histoires de style dans l'écriture du grec qui seraient plus sophistiquées que ceux que d'autres écrivent, moins que d'autres, etc. Mais bon, peu importe. Donc en fait, l'auteur il est inconnu. Ce livre il est inclus au canon des Écritures à partir du 5e siècle. En tout cas, il est écrit dans un bon grec. Il est écrit par quelqu'un qui connaît bien l'Ancien Testament. Et qui en l'occurrence s'adresse à des gens d'origine juive. Hein? Donc ça c'est sûr. Et le but de, alors je vais juste regarder deux bricoles. Qu'est-ce qui nous est dit ici sur éventuellement la localisation des uns des autres. Sur le qui, on peut laisser tomber. Donc, ce que disent les gens qui savent beaucoup de choses, c'est que nous ne savons ni où se trouvaient les destinataires de l'épître, ni d'où leur écrivait l'auteur. Ça, au moins, ça simplifie. On ne sait pas qui a écrit, on ne sait pas d'où, et on ne sait pas où étaient les gens à qui il s'adresse. Mais quand même, étant donné le contenu, on comprend un peu à qui, merci Carmen, et le contexte dans lequel eux, ils devaient être, par contre. Et finalement, c'est ce qui est un peu le plus intéressant dans cette lettre, et pour comprendre pas mal de choses. Donc, on a pensé que, voilà, c'était peut-être, enfin que plutôt les croyants d'origine hébreu qui sont concernés ou qui reçoivent la lettre, on va dire, ils étaient peut-être à Rome, parce que on comprend que cette lettre-là, elle est écrite dans un contexte de tribulation. Qui en tout cas qui est enfin de persécution disons qui est assez présent et qui en fait va un peu expliquer pourquoi l'auteur parle de tout ce dont il parle et pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre d'avertissements. On ne s'arrêtera pas sur chacun des avertissements, mais notamment dans les premiers chapitres il y a 4 ou 5 avertissements qui semble sévère en plus. Et puis, par contre, on va s'arrêter sur 2 textes qui font problème, qui font un gros problème même. Et je vous donnerai ma manière de voir les choses sur ces 2 textes. Et puis, nous irons sûrement ailleurs. Par contre, au préalable, on va quand même dater cette lettre environ de 68 après Jésus-Christ. Le but de la lettre, ou même pas le but, on va dire... Est-ce qu'on peut dire le but ? Oui, le but ou le thème, mais bon, c'est toujours... à part certains livres dans la Bible, c'est un peu confus de dire le thème. Voilà, on peut peut-être chercher plutôt un but ou des buts, des orientations qui dirigent un peu la rédaction des lettres ou d'autres. Mais des fois, c'est un petit peu compliqué. Vous allez prendre l'un, il va dire ça, l'autre, il va dire autre chose. Et ni l'un ni l'autre a tort. Effectivement, ça se trouve dans la lettre. Effectivement, ça a une place importante dans la lettre, mais c'est un peu compliqué. Je veux dire, c'est pas voilà, c'est pas comme d'autres styles d'écrit. Donc, en tout cas, le but ou le thème, si vous voulez, ça va être le sacerdoce de Christ et surtout sa supériorité. Ça, c'est ce que nous allons voir très rapidement dans Hébreux chapitre 1, et ensuite on n'insistera pas plus parce qu'on veut voir d'autres choses. Le mot-clé, c'est cresson, pas comme le papier, K-R-E-I-2-S-O-N, K-R-E-I-2-S-O-N, qui signifie meilleur, mieux, supérieur, plus excellent. Donc meilleur, mieux, supérieur, plus excellent, et qui sont évidemment rattachés, notamment dans les premiers chapitres. Allons-y, les 9 premiers chapitres, on va dire. 9 sur 13, c'est pas mal, ça fait les 9, c'est les premiers quand même. Qui s'est rattaché, en fait, au fait que Jésus est supérieur aux anges, est supérieur aux prophètes, est supérieur à tout ce que vous voulez, en fait. Et donc, ça, c'est un peu la chose qui est martelée en fond. Et ensuite, pourquoi est-ce que ceci est martelé? Alors, je vais vous expliquer, parce qu'en fait, le contexte, mais pas le contexte de la lettre, le contexte dans lequel sont enfin, en tout cas, on comprend dans lequel sont les destinataires, ceux qui reçoivent, explique pas mal de choses. Donc, je vous ai dit des croyants d'origine juive, qui en fait sont dans un contexte où il y a une persécution sur les chrétiens. Et eux, leur tendance, en fait, ce qu'on comprend, c'est de retourner au sacrifice, de retourner au temple, etc., aux synagogues. Et du coup, le but de la lettre, c'est justement de les reprendre par rapport à cette erreur, je veux dire grossière. Et en même temps, c'est la manière dont ils sont repris. Il y a une certaine fermeté, comme je vous ai dit. Il y a effectivement des exhortations. Il y a des choses qui sont dites. Il y a des choses des fois à un moment donné qui sont même dites de manière tellement tranchée qu'aujourd'hui, les chrétiens se disent, on parle à qui? À des chrétiens, à pas des chrétiens, on perd son salut, on commence à en perdre son latin là-dedans. Donc, il y a une certaine fermeté. Et en même temps, au milieu de cette fermeté, il y a un décor de fond qui est pourquoi je suis ferme, c'est parce que Jésus est supérieur à tout ça. Il est supérieur à vos hérésies, il est supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament, il est supérieur aux anges, il est supérieur voilà, à tout. Et comme il est supérieur à tout, je vous explique que revenir à la version précédente, ça ne vous sera d'aucun profit. Et qui plus est, c'est aussi une manière de cracher sur le Christ. Voilà. Et en même temps, il n'est pas en train de remettre le salut de ces gens-là en cause, etc. On va le voir par rapport à certaines choses. Alors, je vais simplement vous lire le début de. Alors, juste une chose que je vais rajouter parce que j'irai certainement pas y rentrer dedans. Chapitre 11, on connaît tous. C'est le chapitre des héros de la foi. Donc, le thème, c'est la foi avec toute une série d'exemplarités, on va dire. Chapitre 12, c'est la correction, mais pas la correction dans l'Église, la correction de Dieu envers nous, en fait. Et chapitre 13, ce sont divers conseils ou avis pratiques quant à notre vie. Donc ça va parler de garder pur le lit conjugal. Ça va parler de ne pas s'inquiéter parce qu'on ne sera pas abandonné. Ça va parler du fait que si on a de l'argent, eh bien, qu'on soit généreux et qu'on partage, etc., etc. Donc ça sera le chapitre 13. Et avant tout ça, il y a cette supériorité de Christ. Et donc on va simplement lire le début tout simplement du livre. Et on va s'arrêter sur deux, trois choses. Ensuite, je vous citerai peut-être juste quelques versets, sans forcément les commenter, qui vont juste illustrer le fait qu'il y a des reprises en main. Voilà. Des avertissements, voilà. C'est ça, c'est le mot cherché. Reprise en main. Alors, on démarre Hébreux chapitre 1, verset 1. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Donc là, comme je vous dis, en gros, on se retrouve devant une lettre, un écrit du moins, ou un livre, disons, où on n'a aucune information, on ne sait pas qui a écrit, on ne sait pas exactement à qui il écrit, on ne sait pas d'où il écrit, on ne sait pas où il écrit. Mais là, vous lisez le premier verset, eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, vous comprenez à qui il parle. Forcément, il parle à des Hébreux, sinon il ne parlerait pas, les prophètes ont parlé, etc., etc. Donc, et déjà là, dans juste ce premier verset, vous voyez bien qu'il est déjà en train d'établir le fait que le Fils est déjà supérieur à pas mal de choses, et notamment les prophètes de l'Ancien Testament. Et qui étant le reflet de sa gloire, donc le Fils étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc là, je m'arrête rapidement. Je trouve que le verset 3, c'est difficile d'enlever le caractère divin à Jésus-Christ. Donc, soit vous partez dans du polythéisme parce que vous comprenez pas la Trinité, mais dire non, mais Jésus, il est qu'un homme. Moi, je lis ce verset-là, je dis mais non, mais attends, il n'est pas qu'un homme. Quand je lis ça, il est presque au-dessus de Dieu. Et en plus, quand on sait que et dans le livre là et dans le reste du Nouveau Testament, le Sauveur, c'est qui? C'est Jésus. Donc, qu'est-ce que vous avez de plus haut que le Sauveur? Vous voyez? Mais surtout, ici, voilà, dans ce qu'on vient de lire, il est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de sa personne, il soutient toute chose par sa parole puissante, il fait la purification des péchés, et il s'est assis. Bon, alors, c'est pas quelque chose qui nous pose des gros problèmes, etc. Donc, on voit cette supériorité. Et ensuite, je vous lis juste un petit peu plus loin pour que ça soit quand même assez intéressant. Donc, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, donc ça c'est une citation, ce sont des citations de l'Ancien Testament, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Là ça ne nous parle pas forcément de divinité, à la limite bien au contraire. Mais ça parle du fait qu'il est au-dessus des anges. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est-à-dire Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, on reste sur la supériorité vis-à-vis des anges. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il a dit au Fils, et ça c'est, voilà quoi, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, et là on est en train de parler de Jésus, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront mais tu subsistes, ils vieilliront comme un vêtement, tout comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, etc. Donc là, on voit clairement le caractère divin de Jésus, sa supériorité vis-à-vis des anges, etc. Donc après, voilà, ça va dérouler comme ça. Maintenant, j'avais dit quelques petits versets quand même qui... Alors, je ne vais pas à chaque fois vous expliquer tout le... Parce que sinon, on va faire que hébreu, en fait. En hébreu 3, au verset 7-8... Et au verset 15, il est dit, donc c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Là, il fait référence à la révolte, à une des révoltes dans le désert. Le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans, etc., etc. Verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. C'est la même, c'est répété et on continue. Donc ça, c'est une forme d'avertissement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce qui veut dire que il est possible que nous endurcissions nos cœurs. Il sous-entend que eux l'ont endurci, et c'est pour ça qu'il vient leur écrire. Et l'autre chose qui est importante ici, c'est aujourd'hui, si vous entendez. Et ça, je pense que c'est très très important dans nos vies. Là, notamment, c'est très important parce que il va envoyer des avertissements, exhorter à certaines choses, mais le préambule, c'est « si vous entendez ». Aujourd'hui, si vous entendez. Et en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui vous n'entendez pas, ça sert à rien que je vous engueule derrière, de toute façon. Ça sert à rien qu'il y ait une exhortation. Ça... Voilà, le préambule, c'est « si vous entendez ». Si vous entendez aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que même si vous entendez, vous pouvez endurcir votre cœur. C'est pas impossible, c'est ce qu'il dit là. Mais le préambule qui est intéressant, c'est si vous entendez, et c'est aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu plus loin, bon, il va le redire une troisième fois au chapitre 4, verset 7. Donc voilà, c'est bon, là, c'est entendu. Ce livre, comme plutôt les trois suivants qu'on va voir, parle beaucoup, en fin de compte, de la marche chrétienne, de la vie pratique. Je dis ça pourquoi ? Parce que au chapitre 4 et au verset 11, il est dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos », donc le repos dont il parle et auquel les personnes devaient avoir accès s'ils entendaient et surtout s'ils n'endurcissaient pas leur cœur à la suite. Donc « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance ». Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que comme il est en train de parler de la vie pratique, en fin de compte, même s'il la met, heureusement d'ailleurs, en corrélation avec le ciel ou avec les réalités spirituelles, il est obligé d'utiliser des termes comme « efforçons-nous ». Il y a un effort à aller, en l'occurrence, vers un repos qui est acquis, mais manifestement, il y a un effort. Quand je dis un effort, je vais essayer de vous trouver une autre formule qui peut être plus intéressante. D'abord parce que efforçons-nous, on peut avoir tendance à le voir de manière péjorative, mais je dirais tendons vers, inclinons-nous vers ce que Dieu a fait, vers ce qu'il propose et ce qu'il me dit. Sachant que ce qu'il me dit ne va pas être contraire à tout ce qu'il y a dans la Bible. On est bien d'accord, on ne va pas inventer un nouveau truc, c'est sûr. Juste petit terme au passage. Bon, évidemment, il y aurait des choses très importantes à dire. Hébreux 4, 12, 13, mais bon, on ne va pas s'arrêter là. Mais un peu plus loin, verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Donc, qu'est-ce qui me permet de recevoir et de marcher dans l'avertissement qui est dans les avertissements qui sont donnés? Qu'est-ce qui me permet de m'efforcer de rentrer dans le repos? Ce sont des choses concrètes et durables. J'ai un souverain sacrificateur qui, lui, est rentré avant moi. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je modifie ma marche? Pourquoi est-ce que je vais faire des choix différents? Pourquoi je vais me laisser incliner? Parce que je réalise que Jésus est au-dessus d'eux, parce que je réalise que Jésus est un souverain sacrificateur plus excellent que les précédents. Et ça, il leur dit, alors il est vrai que là, nous, on est un petit peu, on va dire un peu hors contexte. C'est-à-dire que quand je vous dis ça, je vous le dis quelque part un petit peu en dehors du contexte du livre. Lui, il leur dit ça alors que, en face de lui, il a des gens d'origine hébreu qui reviennent au sacrifice, au temple, etc. Ça veut dire que, étant devenus chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent au temple et ils resacrifient des animaux pour leur péché, je veux dire. Pas pour voilà. Et pourquoi? Parce que les chrétiens étaient persécutés et les juifs n'étaient pas forcément à ce moment-là, ou pas encore, du moins. Donc, de retourner dans les synagogues, le temple, etc., enfin, surtout les synagogues, s'ils étaient à Rome, c'était une manière de se protéger, en fait. Tout simplement. C'était une manière de se protéger. Et lui, il dit, ben oui, mais là, vous faites quelque chose qui est complètement à l'envers, qui n'a pas de sens, et quelque part, vous amenez une forme de malédiction sur vous. Donc, voilà, il faut reprendre ça. Verset 16, pareil, un verset qui doit encourager enfin eux, mais nous par extension, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En fait, la vie que nous avons à vivre avec Dieu et toutes les choses qui nous sont proposées, qui sont dites, etc., vont nous amener la plupart du temps, ou tout le temps, devant des impossibilités. C'est trop grand pour moi. Je peux pas faire, je suis pas capable, j'ai pas les ressources en moi. Et le constat est vrai, mais la solution au constat, c'est pas efforcez-vous pour le coup, ou en tout cas c'est pas efforcez-vous à vous changer. C'est efforcez-vous peut-être à vous approcher du trône de la grâce pour trouver les moyens d'eux. Parce que le constat est vrai, les moyens d'eux, nous ne les avons pas. Mais Dieu n'a pas prétendu que nous les ayons. Les avertissements, en permanence, qu'est-ce qu'ils reprennent? Ils reprennent pas... En fait, c'est intéressant, quand on lit l'Épître aux Hébreux, je dirais, peut-être que je me trompe un peu, mais peut-être pas tant que ça, je crois qu'à la limite, il ne reprend quasiment jamais, de manière directe, ses auditeurs, enfin pas ses auditeurs, mais ses destinataires, sur une conduite. Il les reprend sur quoi? Sur un terme général, la désobéissance, et sur quelque chose de plus intérieur, un manque de foi, de confiance, de choses comme ça. Mais en fait, il n'est pas forcément en train de reprendre les choses. Voilà, vous devez pas faire ça, ou vous devez faire ci, ou mi, ou machin. Et du coup, c'est pour ça qu'il met une toile de fond qui est positive. C'est « J'élève Jésus-Christ pour vous amener à sortir de l'ornière dans laquelle vous êtes mis et d'aller marcher sur le chemin qui vous est proposé. » Et en fait, je vous tire pas de force du chemin, ou je vous dis pas « Efforcez-vous de sortir du chemin. » Je vous dis, voilà, on va dire « Allez à la source pour effectivement ensuite que la conséquence, ça soit d'arrêter d'aller sacrifier, de retourner dans des églises, d'accepter la persécution, si tel est le cas à ce moment-là, et puis de marcher dans les vérités qui vous ont été au préalable déjà enseignées, révélés et qui n'ont pas changé. À un moment donné, je crois que c'est Hébreux 9, il me semble, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'emphase, elle est toujours mise sur Jésus-Christ, sur qui il est, sur ce qu'il peut faire dans notre vie. Après, les problèmes de comportement, de conduite, l'absolument concret de ce que nous faisons, c'est secondaire. Pas dans le sens que c'est pas important, mais dans le sens que ça découle autre chose. Ça découle. Si je suis dans une attitude, un état d'esprit d'orgueil, de rébellion, de désobéissance, de manque de foi, va en découler des actions qui ne seront pas agréées par Dieu. Et si je m'attache à d'autres vertus dans ma vie, ou en tout cas que je cherche à me tourner vers Dieu pour les recevoir, les vivre et les entretenir, il va y avoir d'autres fruits qui vont se manifester. Si j'ai confiance, je ne me comporte pas de la même manière que si je n'ai pas confiance. Quand vous avez peur, vous n'avez pas le même comportement que quand vous n'avez pas peur. Peu importe si ce qui est en face de nous, la peur est légitime ou pas, mais si j'ai peur, j'ai un comportement, si j'ai pas peur, j'en ai un autre. Et pour tout pareil, c'est qu'un exemple. Alors ensuite, au Hébreux chapitre 5, il va leur expliquer, donc il va continuer sur souverain sacrificateur, et puis il va embrayer sur verset 11. Donc là, déjà, début, donc il va montrer la supériorité en tant que sacrificateur de Jésus, le mettre en lien avec l'événement avec Melchisédek et Abraham, et montrer que Jésus, il est d'une sacrificateur supérieure à celle des Lévites, qui est une sacrificateur dont il va parler dans l'Ancien Testament, qui serait celle de Melchisédek, et donc qui serait donc du coup d'un autre ordre que celle de Lévites. Et puis il arrive au verset 11, et il dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, ça fait toujours plaisir ça, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Ça, pourquoi je vous lis ça? Parce que ça, c'est le préambule de ce qu'on va lire après. Ce qu'on va lire après, c'est le premier des deux passages sur lesquels je veux m'arrêter un moment. C'est Hébreux chapitre 6, et puis ensuite on ira voir Hébreux chapitre 10, où il y a une portion des Écritures, enfin deux portions en l'occurrence des Écritures, qui font beaucoup débat et qui troublent les chrétiens et qui amènent les théologiens des fois à des conclusions qui sont pas correctes ou alors qui sont du bricolage, de mon point de vue. Donc je vais vous lire la suite et première lecture forcément c'est un peu chaud les marrons quand même. Hein. Donc Hébreux 6 verset 1, c'est pourquoi c'est la suite de ce que je viens de lire. Sinon on dit pas c'est pourquoi. C'est pourquoi, donc, puisque vous êtes des enfants spirituels, que vous en êtes au lait, que vous ne pouvez pas recevoir la nourriture solide, etc., eh bien, on va repartir d'en bas, hein, on va repartir des fondations, d'accord? Ça, c'est important, mais je ne le dis pas pour rigoler, je le dis parce que ça va expliquer la suite, en fait. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc voilà, on est chrétien, il y a des œuvres qui sont mortes et que nous savons que nous n'avons pas à vivre, à pratiquer, je veux dire. Donc deux choses, une, des péchés qui sont qualifiés comme tels, et deux, des œuvres mortes, chercher une justice là où elle n'est pas, c'est-à-dire pour leur cas, dans des sacrifices qui n'ont plus lieu d'être. Deux points pour les œuvres mortes. Donc nous n'allons pas reposer non plus le fondement de la foi en Dieu, oui évidemment la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, donc du fait qu'il y a des morts qui vont ressusciter, donc qu'il y a des baptêmes, qu'il y a le baptême d'eau et qu'il y a le baptême de l'esprit qui est donc la conversion, Où est-ce que je suis? Donc, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, il y a un jugement éternel pour certains. C'est ce que nous ferons, donc nous laisserons ça de côté, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est, alors, et donc voilà, nous y allons, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, qu'est-ce qu'ont compris un certain nombre de personnes à ça? Et l'idée qu'on peut avoir, effectivement, dans une première lecture, si on ne va pas en faire 2, 3, 4, 10, 50, 500, et puis chercher un peu d'autres choses, on se dit, bon, ok, si on a goûté à la vie de Dieu et qu'on tombe, ben en fait, on n'est plus sauvé, quoi. Première question à laquelle personne, aucun théologien est capable de donner une réponse ici. Qu'est-ce que ça signifie tomber? Mais concrètement, c'est-à-dire, ok, tomber, c'est quel péché? Parce que l'épître de Jacques, il nous explique quand même que la sainteté, c'est comme une chaîne. Vous cassez un maillon, il n'y a plus de sainteté. Vous enfreignez un trait de la loi, petit ou gros, vous êtes out. Donc tomber, c'est quoi? C'est, j'ai regardé quelqu'un de travers, j'ai eu une pensée mauvaise, j'ai fait un petit mensonge. Qu'est-ce qui me justifie de penser que c'est un crime, un adultère, ou des choses, ou un vol? Vol, d'accord, quelle somme, à partir de combien? Non, mais parce qu'après, c'est pareil, je veux dire, tu me voles un crayon ou tu me voles 50 000 euros, c'est pas exactement la même chose. Ou tu me voles ma voiture, c'est pas pareil que si tu me voles un taille-crayon, quand même. Enfin, voilà, je veux dire, si on est dans la comparaison, c'est pas la même chose. Donc, la seule chose que nous savons, c'est que un péché suffit pour nous amener en enfer. Enfin, bon, c'est pas qu'on va commettre un péché, on va aller en enfer, mais ce que je veux dire, c'est que un seul de nos péchés est suffisant pour que Dieu nous déclare coupables et envoie les gens en enfer. C'est ce que je veux dire. Donc, je parle du principe, je parle pas du fait que nous ou d'autres vont faire un péché et que voilà, il y a un gros bâton qui va, un gourdin qui va leur tomber dessus. C'est pas la question. Donc à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire tomber? Moi je dis, ben j'en sais rien. C'est tout, ou alors je sais pas. Donc si vous me dites, ben j'ai goûté, où est-ce qu'il est lui? Reviens, voilà, donc on a goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, etc. Et donc ils sont tombés. Si tomber, ça veut dire, je sais pas, moi j'ai eu un regard qui était pas correct, une pensée qui est un mot qui était un peu trop élevé, ça me paraît disproportionné. Donc est-ce qu'on parle vraiment de ça, en fait? Alors je vais vous donner un peu des éléments et vous dire un peu comment est-ce que je vois les choses. Je trouve qu'en français, c'est pas si mal traduit que ça, malgré tout, même si au premier abord, ça nous choque. Alors aussi, une chose que je vais vous rajouter pour vous faire plaisir. J'ai entendu un truc qui... J'ai entendu plusieurs fois, mais enfin bref. Quand je l'ai entendu, en général, ça me faisait un peu tressauter sur ma chaise. Ceux qui ont goûté, ils sont pas vraiment rentrés dans la vie de Dieu, en fait. Ils ont juste, tu goûtes un petit peu la soupe ou voilà, t'as pas vraiment mangé, en fait. Donc si t'as pas mangé, tu es pas vraiment dedans, etc. Le terme goûter ici en grec, il peut tout aussi bien vouloir dire manger. Alors, ça ne veut pas dire que ici, ça veut forcément dire manger, mais en tout cas, voilà. Après, c'est pareil, chipotons pour chipoter. C'est quoi le barème où entre goûter et je suis dedans? J'en sais rien. Par contre, le texte grec, enfin le mot grec, lui, il peut très bien vouloir dire manger. Et de toute façon, même de prime abord, enfin moi, dans ma manière de le lire. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Pour moi, si t'as part au Saint-Esprit, c'est que voilà, c'est tout, t'as reçu le Saint-Esprit. Donc pour moi ici, il s'adresse à des croyants. Mais je vais faire une petite distinction quand même. Je veux dire, il s'adresse à les gens qui, hein, en partant du principe que ce sont des croyants. Après, est-ce qu'ils le sont tous ou pas? J'en sais rien, parce que ce que je vous ai décrit de ce qu'ils font, c'est-à-dire retourner à la synagogue et resacrifier des animaux alors que tu sais que tu as été enseigné que Christ est le sacrifice ultime, c'est pas un petit gros mot. Quand même, je veux dire, c'est pas un petit gros mot. Donc ça veut dire que là-dedans, peut-être il y en a, ils sont retournés comme les autres parce qu'ils ont eu peur, mais certains ont eu peur parce que la chair a peur, et d'autres ont eu peur parce que peut-être qu'effectivement, ils n'ont jamais rencontré Christ. Mais lui, je pense qu'il s'adresse aux gens dans l'idée de s'adresser à des gens qui sont des croyants et qui se sont égarés. Alors maintenant, il faut quand même trouver du sens à ce qui est écrit ici, parce que c'est quand même costaud malgré tout. Donc il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Alors c'est ce, là où je dis que c'est bien traduit, c'est ça. C'est, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Le fait qu'il, la manière, c'est très bien traduit ça, encore renouvelé. C'est-à-dire que c'est pas impossible qu'ils soient renouvelés, c'est impossible qu'ils soient encore renouvelés. Ça veut dire qu'ils ont été renouvelés. Mais il est impossible qu'ils soient encore renouvelés. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de sous-entendre ici? C'est que vos sacrifices, quand vous tombez, quelle que soit la chute, on va dire, vos sacrifices d'animaux, ça va pas vous remettre dans le droit chemin. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est surtout que, et ça va avec le fait qu'ils reviennent quand même sur les sacrifices animaux, mais nous, ça peut s'appliquer beaucoup plus pratiquement à nous, peut-être, c'est que s'il n'y a pas de... Il est impossible qu'ils soient encore renouvelés, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre renouvellement spirituel possible que celui que nous avons eu à la nouvelle naissance. C'est-à-dire que... Ce qui veut dire que... Pour l'appliquer pratiquement pour nous aujourd'hui, et après je vais vous expliquer dans le contexte, parce que j'ai fait exprès de ne pas lire tout le texte, mais on va rester sur l'application pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je pêche, et il se trouve que je pêche tous les jours, donc ils ont goûté le don céleste et ils sont tombés, nous le vivons tous les jours, en fait, déjà. Alors, je vois pas comment est-ce qu'on peut m'expliquer autrement. Ou alors, il y a des chrétiens d'un certain niveau, mais moi je suis pas de ce niveau-là. Mais peu importe, c'est pas ça qui est grave. Donc, nous tombons tous les jours, et en fait, le texte, il est en train de dire, il n'y a pas d'autre moyen de revenir à Dieu que par le sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Donc, je peux que revenir à la repentance initiale pour être à nouveau en adéquation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre repentance, en fait. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Et alors maintenant, pour vous montrer que, clairement, il s'adresse... Il s'adresse à des chrétiens et qu'il n'est pas en train de parler de perdu salut et que c'est un ajustement de la marche du croyant. C'est la suite au verset 7. Alors, néanmoins, il dit que c'est grave, hein, je veux dire, il dit que c'est grave. Et surtout, ce qui est grave, c'est d'aller chercher justement une autre repentance, un autre renouvellement. Si, je vais quand même vous rajouter 2-3 bricoles qui sont quand même assez intéressantes. Il est dit. Non, ça on va laisser tomber, ça doit être dans Hébreux 10. Alors, par contre, verset 7, quand vous donnez une illustration, quand on donne une illustration, le but d'illustration, c'est quoi? C'est de faire comprendre ce que j'ai expliqué au préalable. Sachant que l'illustration en elle-même, je ne vais pas la décortiquer dans tous les sens parce qu'elle n'est pas la vérité. On est d'accord. Mais elle est là pour nous aider à comprendre la vérité qu'on a dit au préalable. Donc là, il y a une illustration. Donc on va la lire et on va voir. Donc lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc là, tout le monde comprend bien. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Notez bien, et près d'être maudite. Il n'est pas dit qu'elle est maudite. Elle est près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Donc il y en a qui ont vu dans cette illustration, parce qu'il la décortique de manière incohérente, ah ben attention, si on y met le feu, ça veut dire que les gars au-dessus, là, ils ont craché sur Christ, c'est l'ignominie, ils l'ont recrucifié, donc ils vont brûler. Non, moi je lis ce qui est marqué. C'est pas eux qui brûlent. Qu'est-ce qui est marqué là? Il est dit, si une terre elle est abreuvée et qu'elle porte de l'herbe, elle donne quoi? Elle donne, elle est, voilà, elle participe à la bénédiction de Dieu. Si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, et donc elle est réprouvée, donc, ok, le fait qu'il y ait des épines et chardons, c'est réprouvé, et elle est près d'être maudite, mais elle n'est pas maudite, et on finit par y mettre le feu. Si, dans l'image qui est donnée ici, la terre, c'est la personne, qui est brûlée à la fin? Hein? Dans ce qu'on vient de dire. Ce qui est brûlé, c'est quoi? C'est les épines et les chardons. Ce qui, par ailleurs, en Corinthiens, par exemple, au tribunal de Christ, c'est ce qui va se passer. Le foin, la paille et le chaume, ça va brûler. Ce sont quoi? Les œuvres des croyants, les œuvres inutiles, œuvres mortes. Donc là, c'est pareil. C'est en fait, voilà, si ce que tu produis qui ne participe pas à la bénédiction de Dieu, c'est réprouvé pour Dieu, c'est prêt d'être maudit, mais comme tu es croyant, ce n'est pas maudit, et ça va effectivement brûler. Et surtout, dans l'image très basique, vous avez une terre et des choses qui produisent dessus. Ce qui produit dessus, dans une première partie, ça participe à la bénédiction de Dieu. Dans la deuxième partie, on y met le feu. Mais qu'est-ce qui brûle? C'est pas la terre. C'est ce qui est dessus. Est-ce que ça vous paraît assez cohérent, tout ça? On va rajouter, on va lire un tout petit peu la suite pour vous montrer que ça a d'autant plus de cohérence. Verset 9. « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés. » Donc il reconnaît qu'il y va fort. Il les appelle bien-aimés. « Nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. » Ici, je pense par contre qu'il n'est pas en train de parler de salut éternel. Il est en train de parler de choses favorables, salutaires pour votre vie. C'est comme ça que je le comprends. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Comment vous voulez qu'on parle de non-croyants ou de gens qui ont perdu ou je sais pas quoi? Et en plus, comme je l'ai dit au départ, nous n'avons pas un cadre clair pour identifier avec précision quel est le reproche. Donc je suis obligé d'englober tout. Et si j'englobe tout, on est dans une démesure complète, en plus. Alors, je vais juste lire un petit peu la suite, juste pour vous montrer que tout se tient quand même tout seul, sans trop analyser plus. Donc, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, voilà, je pense qu'il y a une certaine cohérence dans tout cela. Il n'y a pas un autre moyen de se relever, entre guillemets. Le fait, effectivement, d'aller chercher un autre moyen qui est donc les défauts sacrifices, c'est une manière, effectivement, de cracher sur Christ. Néanmoins, les œuvres vont passer au tribunal et vont être brûlées. Et, quoi que nous parlions avec fermeté et, voilà, un peu quand même costaud, nous attendons des choses meilleures de votre part, afin que, en fin de compte, comme on l'a lu dans la suite ici, afin que vous ne relâchiez pas, que vous persévériez et que vous soyez au bénéfice de promesses qui sont en corrélation avec la foi. Donc voilà, moi ça me paraît avoir un certain sens. Après, vous trouvez des outils qui vous donnent 4-5 autres interprétations, qui valent ce qu'elles valent, mais qui, à mon avis, respectent moins le texte et le grec que là. On va aller voir donc l'autre passage en Hébreux 10 qui fait tout autant hérisser les cheveux. Donc on va démarrer à Hébreux 10, 26, même 25, même 24, même 23. Même 22. Alors, on va démarrer à 22. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est à partir du verset 26. C'est à partir du verset 26 jusqu'à la fin du chapitre. Mais je vais vous lire quand même le début, parce qu'effectivement, encore une fois, ce qu'on appelle le péricope, c'est-à-dire le contexte proche du texte que vous étudiez, hein, a toujours de l'intérêt. Le contexte proche, mais aussi dans quel livre c'est écrit, et puis évidemment, le fait que les destinataires soient tel type de personne plutôt que tel autre, ou qu'il y a tel ou tel problème, doit aussi donner de l'eau à notre moulin pour comprendre, notamment des textes qui peuvent être un peu ardus. Donc verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour de la fin du jugement, etc. N'abandonnons pas notre assemblée. Le terme assemblée, en grec, c'est synagogue. C'est le terme qui a donné synagogue, on va dire francisé. Et synagogue, ça veut dire c'est la foule avec. C'est être avec la foule, en fait. D'autres traductions ont traduit de manière très intéressante cette formule-là ici. Au lieu de traduire « n'abandonnons pas notre assemblée », il est dit n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Et cette manière de le dire est plus intéressante parce qu'en fait, trois choses. Je veux dire, il y a trois choses qui doivent nous motiver de venir à l'Église. Une, c'est de recevoir de la parole de Dieu. Deux, c'est de vivre la vie chrétienne, parce que si on n'est pas avec des frères et sœurs, une grande partie de la vie chrétienne ne peut pas être vécue, tout simplement, parce qu'il y a des choses à vivre dans l'Église, et donc ils ne peuvent pas être vécues en dehors de l'Église. Il y a des choses qui peuvent être vécues en dehors de l'Église, mais qui vont être vécues avec une force exponentielle dans l'Église. Par exemple, aller évangéliser ensemble dans la rue ou sous toute autre forme ensemble, c'est une autre dimension que de témoigner à mon collègue de travail, à qui je dois témoigner, ou à mon membre de famille, ou à mon voisin, ou à n'importe qui. L'un n'exclut pas l'autre, mais je veux dire, forcément, il y a une dimension supérieure à vivre, et du coup, un des buts de l'évangélisation dans la rue, un des buts de l'évangélisation dans l'Église, c'est de vivre la communion fraternelle, vivre une communion ensemble, vivre quelque chose ensemble, faire l'œuvre de Dieu ensemble. Et le troisième point, parce qu'une fois que j'arrive là, je risque d'avoir oublié le troisième point. Pourquoi est-ce que je vais à l'Église ? Parce que je vais dans le rassemblement de moi-même. C'est-à-dire que je fais partie de l'Église universelle, qui se concrétise forcément par un rassemblement local. Donc, quand je vais dans un rassemblement local, alors évidemment, je vais élargir, hein, aller à l'Église, aller à l'unité biblique, aller à un cours, aller à une prière, enfin, bien sûr. Mais là, on va rester sur le contexte de l'Église. Je vais dans le rassemblement de moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je vais là où j'appartiens, en fait. Ma vie, qui je suis, c'est dans l'Église, en fait. Ce qui ne veut pas dire que je ne vis rien à l'extérieur. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais l'Église, je fais partie de l'Église. Donc, d'aller dans l'église, d'être avec des frères et sœurs, ça fait partie du rassemblement de moi-même, de qui nous sommes ensemble. Et donc, il y a quelque chose à vivre et qui doit simplement faire que je suis chrétien, donc, même si ça peut être péjoratif parfois, ben, si je suis chrétien, donc je vais à l'église. Alors, à espérer qu'il y a d'autres motivations en plus, et je vais les citer, mais c'en est malgré tout, c'en est une de manière... pas fondamentale, mais structurelle, on va dire. Je suis un croyant, donc je dois me rattacher avec des croyants. Vous voyez ? Bon, bref, on n'a toujours pas expliqué la suite. Le jour. Verset 26, car... Donc, n'abandonnons pas, veillons, retenons ferme, approchons-nous. Je vous redis ça pourquoi ? Parce que il nous dit, approchons-nous, retenons ferme, veillons, n'abandonnons pas, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc première chose ici, là, il vise très clairement les faux sacrifices qu'ils étaient en train de pratiquer. C'est-à-dire que nous péchons et qu'est-ce qu'on a ? Ben on va apporter un animal. Oui, non mais ça marche plus du tout comme ça. Donc car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Autre chose quand même là-dedans, il est parlé de péché volontairement. Ça nous parle du fait que on est dans un état d'esprit quand même qui est rebelle. C'est-à-dire que c'est volontaire, c'est pas juste je pêche parce que j'ai la nature pécheresse, c'est je pêche parce qu'à un moment donné, je fais des choix contre. Et donc, il est dit, à partir du moment où je me mets dans cette position-là, il y a une forme d'attente d'un jugement. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne ? Et là encore un terme clé, sera jugé digne, et non pas sera jugé ou sera exécuté, sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, donc en péchant volontairement, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Donc là, pareil, est-ce qu'on parle de gens qui sont non-croyants ? Non. Non, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Une, ici, il a dit le sang de l'Alliance par lequel... Donc, ils ont tenu profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. S'il a été sanctifié, il a été sanctifié. Nous, on a été sanctifiés. Il ne peut rien se passer d'autre. Autre chose, au-dessus, il nous est dit... Quand il est dit, donc, si nous avons péché 20 ans, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Le terme connaissance, il y a plusieurs termes en grec pour connaissance. Ici, c'est un terme qui est epignosko, qui veut dire que c'est une connaissance qui est complète. Donc, c'est pas juste une connaissance superficielle en passant, c'est une connaissance qui est complète, qui est entière, en tout cas, qui est supérieure à gnosko. Donc ici, on n'est pas en train de parler. Il a connu la vérité, mais en fait, juste, il a un peu entendu parler. Non, il a connu la vérité réellement. Donc pour moi, ça parle quand même de par rapport à la conversion. Donc on va continuer la suite. Donc je vous le relis. Le Fils de Dieu, donc qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance avec lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Donc là, on est clair, le comportement est grave. Car nous connaissons celui qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », le Seigneur jugera son peuple. Il ne jugera pas les incrédules, là, il jugera son peuple. Ça veut dire que, étant dans le peuple, ayant cette attitude de rébellion, la personne qui fait partie du peuple de Dieu, du coup, doit s'attendre à une forme de châtiment de la part de Dieu. Mais ici, manifestement. Et l'exemple qu'il donne, c'est de dire que sous la loi de Moïse, tel comportement avait une conséquence, et donc là, en tout cas, ça mérite de toute façon une conséquence. Quelle est-elle ? Ça, à la limite, on n'en sait rien. Donc, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous, et là, c'est intéressant, encore une fois, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, donc toujours le même principe, à un moment donné, vous avez été éclairé. Et là, vous vous remettez dans l'ombre, en fait, par un biais ou par un autre. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Le contexte de la lettre s'adresse à des croyants d'origine juive qui retournent au sacrifice à cause de la peur de la persécution. Mais à une époque, vous avez soutenu un combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc d'une part, vous avez supporté la souffrance qui s'est trouvée devant vous, vous n'avez pas cherché des subterfuges, et d'autre part, vous avez soutenu ceux qui, eux aussi, ont dû souffrir une forme de persécution, même si peut-être qu'à un moment donné, c'est pas vous qui étiez dedans. Donc la position qui était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc une, si là on n'est pas en train de parler de croyants, je sais pas de quoi on parle, et si on parle de croyants qui ont fait quelque chose de tellement grave qu'ils ont perdu leur salut, manifestement ils l'ont vite rattrapé. Puisque là, n'abandonnez donc pas... où il est passé ? Voilà, donc n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle... Non mais ce que j'ai lu avant, pardon. Voilà, donc la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc vous savez que vous les avez. Vous savez que vous ne les perdrez pas. Donc ce que vous êtes en train de faire là, donc ça veut dire qu'à une époque, vous étiez des croyants, vous saviez que vous ne pouviez pas les perdre. Donc pourquoi vous les perdriez maintenant? Il n'y a aucune raison, vous les avez. Par contre, on vient dans le concret là d'aujourd'hui, effectivement, verset 36. Car vous avez... 35, pardon. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a une rémunération qui est... au ciel, ok, donc des, on va dire des couronnes, etc., au tribunal de Christ, qui est attachée à notre assurance. Et donc, sans assurance, elle est détachée. Enfin, il n'y a pas de rémunération, quoi, si vous voulez. Verset... Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli... Oui, 36, pardon. Car vous avez besoin donc de persévérance... afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, des récompenses qui vont en surcroît. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, vous voyez... il y a cet avertissement qui est lourd et qui semble dire soit ils sont pas chrétiens, soit ils ont perdu du truc. Et en fin de compte, vous voyez que tout le contexte dans lequel c'est donné, c'est quoi? C'est n'abandonnez pas votre assurance. Il y a une rémunération certaine. Ici, le juste, il doit vivre par la foi, mais s'il se retire de cette foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut pas dire qu'il est maudit, qu'il va en enfer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc voilà la chose. Donc là, je pense que ça parle effectivement encore une fois de cette mauvaise pratique des sacrifices qui leur servent à rien, et puis de rentrer quand même quelque chose de différent par rapport à Hébreux 6, de rentrer dans un esprit de rébellion. C'est-à-dire que dans Hébreux 6, c'est ceux qui ont goûté et qui sont tombés. Là, c'est ceux qui ont péché volontairement. On n'est pas au même étage, si vous voulez. Mais dans les deux cas, pour moi, ce sont des croyants, ou en tout cas, l'auteur s'adresse comme tel, en considérant que ce sont des croyants. Après, la réalité peut faire que là-dedans, il y en a qui ne le sont pas, et la fermeté de l'avertissement peut les réveiller. Et leur dire, ben en fait, tu es où, quoi, quelque part. Mais voilà. Et j'avais une chose que je voulais rajouter. Oui, aussi une chose pour dire que ce sont des croyants. Alors, on pourrait donner un autre argument, mais les versets que j'ai lus à partir du verset 22, tout ça, il dit « Approchons-nous, retenons, veillons, n'abandonnons. » Et au verset 26, « Car si nous péchons volontairement, il s'inclut tout le temps dedans. » Alors, il y en a qui vont dire « Il s'inclut dedans, pas une figure de style. C'est une manière de parler. » C'est juste une manière de parler et d'induire les gens dedans. Mais je pense quand même qu'il s'inclut dans la possibilité d'être comme eux, en fait, quelque part. Donc le nous inclut celui qui écrit, qui forcément est chrétien, évidemment. Donc est-ce que vous pensez que ça a quand même un tant soit peu du sens tout ça et que, voilà, on a quand même des éléments qui donnent du sens sur les 3-4 points qu'on avait à lever? Donc sur Hébreux, on va s'arrêter, puisque je vous ai résumé la fin d'Hébreux. Oui, alors donc Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Hébreux 13, 8, donc ce n'est pas Hébreux 9 déjà. Et juste deux petits versets juste pour vous montrer par rapport à cette histoire de retour au sacrifice qui n'est pas correct. À la fin donc de Hébreux, verset 10, 13, 10, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sacrifier le peuple, de sanctifier, pardon, le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. C'est intéressant. Sortons pour aller hors du camp. Eux, justement, ils étaient en train de revenir dans le camp. Mais de revenir dans le camp ne vous sert à rien. Il vous faut sortir hors du camp. Parce que le salut supérieur, il a été accompli hors du camp, là où vous rencontrez Jésus. Donc on va avancer. Jacques. Alors l'auteur de Jacques, c'est le frère aîné de Jésus, enfin demi-frère aîné, bien sûr. C'est celui qui, en acte 15, donne la décision par rapport à ce qu'on doit imposer aux païens qui se convertissent, donc à la foi nouvelle. Donc, ce qui veut dire qu'il était en gros le pasteur en chef de Jérusalem, même si encore une fois là, il décide pas, quand même pas tout seul, même si c'est lui qui donne la décision. Le thème de Jacques, c'est la foi en action, et c'est donc le côté concret. Et je rajouterai une petite chose par rapport au thème. C'est Jacques 1, 27. Il est dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, pas à les visiter dans leur affliction. Et à se préserver des souillures du monde. Donc, ben, évidemment, un tantinet, éviter de pécher dans ce que nous savons être le péché. Ou être, en tout cas, pas de bonne odeur à Dieu. La date de rédaction 45 ou 50, c'est probablement la première lettre du Nouveau Testament qui est écrite. Elle s'adresse à tous, aussi bien à ceux qui sont d'origine juive ou pas. Et alors là, entre Jacques et Pierre, je pense que du coup, on rebondira sur Pierre la prochaine fois, parce qu'on n'aura pas le temps ce soir. Mais en fait, on va pas dire un thème, on va trouver un autre mot. Il y a un sujet qui est redondant, qui revient de longue et qui est, ou même pas qui est redondant, qui est omniprésent, aussi bien avec Jacques qu'avec 1 et 2 Pierre, qui l'est aussi un peu dans une forme peut-être un peu plus théologique dans Hébreux. En fait, c'est le sujet de la souffrance, lié forcément avec la persécution. Et donc, je vais quand même vous lire ce que Jacques dit et qui est quand même choquant au début de sa lettre. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, je ferai une petite précision. Je pense qu'il parle de deux souffrances. Une sur laquelle je pense qu'il faut, il faut penser très simplement, c'est que tout homme sur terre a vécu, vit et vivra des souffrances physiques, morales, psychologiques, ce que vous voulez. Voilà, la souffrance fait partie de la vie. Point. Donc à partir de là, ce qui nous est dépeint, c'est que Dieu n'a pas prévu de changer le format de la vie sur terre. Donc la souffrance y fait partie, et nous devons accepter que ça fait partie du plan de Dieu. Ça, c'est une première strate. Et je pense que si nous n'acceptons pas ça, nous avons beaucoup de problèmes, et nous pouvons aller que vers des problèmes dans notre tête, parce que de toute façon, Christ, pas Christ, Dieu, pas Dieu, croyant, pas croyant, de toute façon, il y a de la souffrance, il y a des accidents, il y a des maladies, il y a, comme ils disent là, les banques qui assurent contre, enfin qui assurent d'une certaine manière, contre les accidents de la vie, il y a des choses qui surviennent dans la vie, qui sont des impondérables, que nous ne pouvons pas maîtriser, et auxquels nous sommes de toute façon obligés de faire face. Et ce que Dieu nous propose, c'est d'y faire face sans s'écraser, tant qu'à faire. Et ça, c'est un premier première sphère de souffrance qui est, vous savez, tout comme il y a la grâce commune, ben là il y a la souffrance commune sur terre. Et là, je pense qu'il faut tout simplement qu'on accepte que ça fait partie de la vie. Et puis c'est tout, et se dire que Dieu peut utiliser cela pour nous parfaire. Maintenant, il y a une deuxième souffrance qui est propre aux chrétiens et qui peut être inclus dans la première, ou en tout cas donner une forme à la première, ou en être pas détaché, mais spécifique, on va dire. C'est-à-dire que ça va arriver aux chrétiens, ça arrivera pas aux autres, cette souffrance-là. C'est ce qu'il nous dit ici. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi. Ça, c'est une autre catégorie de souffrance, ou en tout cas, c'est une autre manière de voir la souffrance. Le chrétien peut voir la souffrance comme étant l'épreuve de sa foi. Et dans les lettres de Pierre, on est encouragé à souffrir alors que nous marchons de manière juste, plutôt que de souffrir alors que nous sommes malhonnêtes, tricheurs et que nous faisons des choses mal. Les deux souffrent. Il y en a un qui souffre parce qu'il l'a recherché, en mal, et l'autre, il souffre parce qu'il a recherché le bien. Mais il y a de la souffrance qui est venue avec. Et donc, cette souffrance-là, c'est l'épreuve de notre foi qui est précieuse aux yeux de Dieu. Et cette épreuve de la foi, point important à noter, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On est bien d'accord, là, les termes parfait, accompli, etc., c'est plus une question d'être formé en Christ, ou que Christ soit formé en nous ici, qu'une idée de perfection dans une idée un peu philosophique et absolue. On est bien d'accord. Puisque ça, on sait très bien par rapport à plein de choses que nous avons vues dans le Nouveau Testament et ailleurs, que l'expérimentation de la perfection sur terre, elle n'est pas là. Ou elle va être ponctuelle, comme je vous avais dit, par rapport au petit point de la peinture, l'impressionnisme, où en fait, quand on est rempli d'esprit, c'est comme des petits points qui du coup, forment un tableau qui est reconnaissable. Mais donc, ici, ce qui est important, c'est ça, c'est que il y a l'épreuve de la foi, qui donc forcément engendre une souffrance, elle est censée produire une patience en nous. Et cette patience a un travail à faire en nous. Et nous, on a besoin de voir, de décider de voir dans ce qui nous fait souffrir, qu'il y a ce but, qu'il y a ce sens, en fait. L'épreuve de la foi qui produit une patience, et cette patience a une œuvre à faire en nous. Pourquoi je souffre ? Parce que Dieu a une œuvre à faire en moi. Pour moi, mais pour les autres. Et peut-être même, je rajouterai, peut-être simplement pour sa gloire, des fois. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand... oui, je crois que c'est dans Jacques ou dans Pierre, il va faire référence par rapport à la souffrance à Job. Job a souffert en grande partie, je dirais, pour la gloire de Dieu. Non, mais je veux dire, pourquoi ? Parce qu'il y a un combat angélique, il y a un combat angélique, il y a une discussion entre Dieu et Satan, et pour manifester que Dieu est capable de faire vaincre l'homme et que l'homme est capable de se soumettre à Dieu et de pas se laisser éloigné définitivement par le diable, il y a cet enjeu-là qui est spirituel, donc c'est pour la gloire de Dieu. Et en même temps, ça a produit des choses dans la vie de Job, puisqu'il dit, à la fin de ma vie, au début, j'avais entendu parler de toi, à la fin, je t'ai vu. Ce qui veut dire, et je dis ça, c'est important pour nous, parce que quand on souffre, et nous souffrons, il n'y a que nous qui souffrons. Ça peut être j'ai mal au petit doigt ou ça peut être quelque chose de très grave. J'ai perdu un enfant ou peu importe. On va se trouver un truc intermédiaire. J'ai perdu mon boulot, voilà, ça fait le petit doigt, le boulot et puis vous avez perdu un enfant, voilà, ou un être cher, peu importe. Il y a une souffrance et parce que c'est vous qui la vivez, elle est grande. La souffrance est grande que quand c'est moi qui la vis. C'est tout, je veux dire. C'est grave parce que c'est moi qui le vis. C'est pas vous. Alors que peut-être, objectivement, vu de l'extérieur, c'est pas grave. Mais c'est grave parce que c'est moi qui le vis. Et donc, j'ai besoin de comprendre, ou en tout cas d'avoir au moins des clés, des éléments de la part de Dieu pour bien penser là-dedans. Et pas juste... la souffrance, ça fait partie de la vie, donc voilà, juste faut accepter. Dieu va faire quelque chose avec. Ça, c'est un résumé, un peu trop résumé. Non, ici, il y a des choses qui nous ont dit. Lisons la Bible. Je veux dire, la souffrance, c'est l'épreuve de notre foi. Elle produit la patience. Vous savez, tout le monde dit, je suis pas patient, c'est dur d'être patient. Eh bien, la souffrance est là pour produire la patience. Et cette patience a un travail à faire dans ma vie. Et une autre chose qui fait que l'on refuse ou on se braque contre la souffrance. Alors d'abord, première chose qui est légitime, c'est que nous n'avons pas été créés pour souffrir. Tout comme nous n'avons pas été créés pour mourir. Donc nous avons peur de mourir dans une certaine mesure. Nous avons peur des dérivés de la mort qui sont maladie, vieillesse, etc. Nous avons, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Oui, on n'a pas été créé pour ça, ce qui fait que donc c'est normal que nous ne voulions pas souffrir et que ça nous fasse réagir. Maintenant, je suis appelé à une deuxième nature, je suis appelé à une vie supérieure, dès ici-bas. J'ai quelqu'un à rencontrer qui est Jésus-Christ et il me dit des choses et il donne du sens aux choses. Et donc j'ai besoin d'éléments. Cette patience qui produit une œuvre. Par contre, quelle est l'œuvre qui doit être produite en moi, je ne la connais pas, généralement. Des fois, oui, mais généralement, non. Donc, là où j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose, c'est en fait, j'ai besoin de faire confiance à Dieu qui fait quelque chose avec la souffrance dans ma vie. J'ai besoin de le croire, ça, en fait. J'ai besoin de le croire. J'ai pas forcément d'éléments, j'ai juste la Bible qui le dit. J'ai besoin de croire que Dieu a décidé d'utiliser la souffrance dans ce monde et des fois même d'en rajouter plus spécifiquement parce que il a une patience à susciter en nous qui doit faire une œuvre en nous et une œuvre qui est bonne et qui est pour notre bénéfice. Et du coup, il y a des choses qu'on a besoin de comment dire, on a besoin de faire un peu attention, on va dire. En Jacques 2, 19, par exemple, il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » J'ai besoin d'avoir une foi qui est supérieure à celle-là, en fait. J'ai besoin d'avoir une foi qui fait confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, les démons, ils croient qu'il y a un Dieu. Des fois, ils le croient même plus fermement que nous. Par contre, ils n'ont pas une confiance en Dieu. Ils n'ont pas cette foi qu'il y a une confiance en Dieu. Eux, ils sont sûrs qu'il y a Dieu. Ils le savent, ils l'ont même vu. Et ils tremblent. Mais par contre, ils sont fermement et définitivement pas d'accord avec. Et nous, on n'a pas besoin de juste croire qu'il y a un Dieu. On a besoin d'être d'accord avec. Et pour ce faire, il faut que je retrouve mes versets. Voilà, mais je vais vous lire un peu le passage qui y a trait. Donc du coup, Jacques chapitre 5, à partir du verset 10. Donc je vous ai dit, je vais le répéter, donc le modèle pour la souffrance, c'est Job. Verset 10, donc. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Donc là aussi une chose intéressante, la souffrance et la patience sont mis en parallèle. Ça va de pair manifestement. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Relisez Job ce soir avant d'aller vous coucher. Non, excusez-moi, ça sera un peu long. Et un devoir à la maison, relevez-moi la quantité du livre de Job qui vous montre sa patience. Voilà, et nous en reparlerons. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. La fin de Job, c'est « happy end ». Mais des fois, c'est pas happy end ici, mais en fait ça sera toujours happy end, parce que à la fin, même si à la fin je meurs de la persécution, de n'importe quoi, on s'en fiche, d'une maladie, je vais dans la présence de Dieu. Donc à la fin, de toute façon, ça va bien finir d'une certaine manière, hein. Par contre, là où j'ai besoin de m'attacher et qui doit me donner du sens à la souffrance et m'aider à traverser les choses, c'est: nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Quand je souffre patiemment, je suis bienheureux, makarios, je suis béni de Dieu. Deuxième chose, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Quand je souffre, que je n'oublie pas que Dieu est plein de miséricorde et de compassion pour moi. Ce n'est pas un jeu pour lui, le fait que nous traversions la souffrance. C'est une, je dirais plutôt, une nécessité induite par le péché originel qui a bouleversé l'ordre du monde. Et c'est pas lui qui a bouleversé l'ordre du monde, c'est Adam et Ève. Autre chose qu'on a besoin de garder en tête, alors oui, bon, je vais quand même vous lire le verset 12. « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Donc là aussi, on a besoin d'être simple dans notre pensée. Ça, c'est une chose qui nous est mise en par-dessus. Verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, etc. ?» Il y a des périodes dans la vie et donc dans la vie chrétienne. Généralement, nous ne sommes pas appelés à souffrir tout le temps. Certains vont peut-être souffrir tout le temps. Ça s'appelle la persécution dans des périodes particulières, etc., etc., même s'il y en a pas mal. Mais la vie chrétienne normale, c'est pas de souffrir du début à la fin. Enfin, pas de, quand je dis souffrir, de souffrir la persécution, le martyr, etc., évidemment. Après, voilà, comme je vous dis, la souffrance fait partie de la vie. Donc voilà, on a ces choses-là à se rappeler. Et on verra la semaine prochaine dans Pierre, on verra encore d'autres choses sur la souffrance, à moins que ça me tombe sous les yeux de suite. Mais ça ne me tombe pas sous les yeux de suite. Si. Non, mais on le verra la semaine prochaine de toute façon. Et puis on verra aussi d'autres choses. On verra un autre passage quand même malgré tout dans Jacques. On le verra rapidement en Jacques chapitre 2, le distinguo entre la foi et les œuvres, parce que là aussi il y a des versets qui peuvent être un peu ambigus en première lecture. Donc on verra ça et on continuera sur la souffrance notamment, sur Pierre, et puis on ira là où on ira. Amen.